Mercedes-Benz.
C'est bien connu. Pour observer les étoiles, il faut attendre la nuit tombée, espérer que le temps soit clair et idéalement être équipé d'un télescope. Sauf du 1er au 30 juin chez Mercedes-Benz. Là, les meilleures conditions sont réunies pour voir les étoiles en plein jour et à l'œil nu. Pendant les Star Days, profitez de nos offres sur de nombreux modèles. Ne laissez pas filer votre future étoile. Rendez-vous chez votre distributeur Mercedes-Benz. Star Days, journée étoilée, détails sur mercedes-benz.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
BFM Bourse, le club de la bourse.
On évoquait aussi la présidentielle américaine tout à l'heure. C'était avec John Plassard. On est à pile 167 jours. Et parce qu'on les compte tous les jours qui nous séparent du 5 novembre. 167 jours donc de ce scrutin électoral aux États-Unis. Les derniers éléments de campagne. On en parlait en direct à 15h30. Le replay, ça y est en ligne. Vous pouvez le consulter sur notre application BFM Business. Vous allez ensuite dans BFM Bourse. Et là, tous les replays apparaissent magiquement. Nos experts du club, donc, pour mesurer le potentiel des marchés, ils sont là et c'est eux qui joueront à notre petit jeu Total Energy. Vous êtes prêts, messieurs? Alexandre Baradez, bonsoir Alexandre.
Guillaume.
Pour IG. Thibaut Prébé pour Financière Arbevel. Rebonsoir Thibaut.
Bonsoir.
En fil rouge avec nous, je vous vois réjoui de ce petit jeu qui approche. Notre petit jeu à suivre dans un instant, je vous promets, il n'y aura pas de petite musique. En revanche, des musiques et des sons, on en a pour parler d'autres sujets que Total Energy, à venir dans un instant Total. D'abord, peut-être l'ambiance et le contexte global de marché. Et cette question qu'on avait envie de vous poser pour entamer ce club. Est-il désormais interdit d'être pessimiste pour les marchés? Est-ce interdit? Même les stratégistes américains, d'habitude négatifs, deviennent optimistes sur le potentiel de Wall Street, figurez-vous. La peur de rater la hausse, peut-être, la peur de rater le train en marche. Même les plus pessimistes révisent à la hausse leurs objectifs sur les indices américains. Alexandre, est-ce qu'il est désormais interdit d'être pessimiste en bourse?
Tout dépend de l'horizon de temps que l'on regarde. Si on peut commencer par la partie européenne, je vois pas de gros dangers à l'horizon pour la partie européenne, que ce soit les valos, que ce soit les perspectives de croissance qui ont été un peu rehaussées, 0,8 cette année, plus 1,2 l'année prochaine, l'indice d'activité qui se redresse pas mal, une situation en Chine qui s'améliore aussi, donc qui favorise les échanges, le voisin allemand qui ira peut-être un petit peu mieux dans les mois qui viennent, des indices de sentiment en Allemagne qui se redressent. Donc au pire, une consolidation en Europe et au mieux, ça continue de monter. Donc je vois pas de gros risques. S'il y a des risques, là, moi,
attendez, vous venez de nous dire au pire une consolidation, au mieux ça continue de monter. Vous venez de nous dire au pire ça baisse, au mieux ça monte.
Non, ah, d'accord. Une baisse c'est, pour moi, c'est 15, c'est 15-20. Une consolidation, c'est des ranges où on va être à moins 5, moins 6, moins 7, et aussi dans ça pendant peut-être 2-3 mois. Pour moi, c'est plutôt côté US qui a le côté un peu chaud. C'est-à-dire qu'on est sur 21 fois les bénéfices anticipés sur le SP500. Alors, c'est pas des niveaux de bulle encore, mais post-Covid, le pic 2021-2022, enfin fin 2021, début 2022, on était à 23 fois les bénéfices et on a pris, alors il y avait un contexte aussi géopolitique qui a aidé, mais les valos bien tendus à 23 fois les bénéfices, ça a quand même fait du moins 20, moins 30 derrière. Et si on prend la référence absolue qui était la bulle Internet, on était à 26 fois les bénéfices anticipés à l'époque sur l'SP500. Donc à 21 fois les bénéfices, on ne peut pas dire que le marché n'est pas cher. Et surtout dans un contexte où les rendements sont plus les mêmes qu'on avait il y a deux ans. Donc il y a de l'alternative. Et c'est vrai qu'on a un marché qui est relativement cher et je trouve que certains membres de la Fed aussi, alors ils sont peu nombreux à parler comme ça, mais le dernier qui s'exprimait, il a fait une référence au marché, c'était Thomas Barkin, je ne sais plus de quelle Fed régionale, qui explique que les anticipations de marché, plutôt que les perspectives d'inflation, c'est une thématique beaucoup plus long terme que le sentiment de marché. Et je ne suis pas convaincu qu'il fasse référence qu'au marché obligataire. Parce que quand on regarde les taux courts sur la partie américaine, toujours à 5 et quelques, on est sur la fourchette de taux de la Fed, donc ça ne bouge pas trop de ce côté-là. Il faisait peut-être un peu référence, effectivement, au marché action, comme l'avait fait Kashkari, notre membre de la Fed, qui, après le dernier rapport sur l'emploi, qui était un peu détendu, parfait pour la Fed, disait que le marché, tout de suite, retrouvait de l'exubérance. Donc j'ai l'impression qu'il y a ce côté un peu de choses déjà bien anticipées de la part du marché, les baisses de taux ne sont pas encore là, mais qu'on a déjà pas mal intégrées, des valorisations qui sont quand même assez bien intégrées désormais. Donc je dirais que sur un horizon de quelques mois, moi, un retour du SP500 à 5000, ça ne me choquerait pas. C'est-à-dire on est à 5003 à peu près. Si on revient sur du 5000, on passe un peu en dessous. Il y avait l'ancien sommet de 2021 qui se trouve légèrement sous 5000. Quand on regarde dans l'histoire du SP500, même du Nasdaq, quand on avait des gros rallyes comme ça de pendant plusieurs mois un peu exponentiels, il y a souvent eu des phases, on appelle ça des pullbacks. On vient chercher comme ça l'ancien sommet, on vient un peu le travailler, s'assurer qu'il sort un peu de support. Cette fois-ci, on ne l'a pas eu, ni sur le Nasdaq, ni sur le SP500. Et je trouve que la phase dans laquelle on rentre, préélectorale, des multiples un peu élevés, des politique monétaire aux États-Unis qui, pour l'instant, ne se détendent pas encore, même si les taux longs US sont un peu détendus, mais il n'y a pas de changements fondamentaux de la politique monétaire. Le bilan continue de ralentir. Donc, je ne vois pas pourquoi on irait chercher 10% de plus, en fait. Et un peu, et là, je reviens au terme consolidation. Si le S&P 500 y retrouve les 5000, bah, ça fait c'est quelques pourcents de correction pour aller chercher les 5000. C'est même pas 10.
Et on s'appuiera dessus, on s'appuierait dessus pour repartir de plus belle à
la hausse. Ça, je ne pense pas du tout, par contre, qu'on ait les bases pour à nouveau du moins 20 ou moins 30. Je vois pas. Okay. Il faudrait vraiment que la Fed se plante, qu'il y a un choc au niveau électoral.
Les banques régionales, c'est plus un souci, par exemple, ou pas d'ordre systémique, en tout cas.
On voit que les taux américains, les taux longs, quand même, sont pas mal étendus. On était à plus de 5% du second semestre l'année dernière. Là, on est retombé dans des zones à 4,30, 4,40. Même quand on regarde l'indice régional américain, enfin des banques régionales américaines, on voit que c'est un petit peu stabilisé, que le bottom tente de se former un peu. Donc, voilà, les baisses de taux vont venir. Il n'y a pas de raison que ça se retende. Mais un peu de conso qui pourrait être par la tech, justement, on en parlait peut-être tout à l'heure. Moi, j'aurais bien la tech prendre un peu ses gains sur les niveaux actuels.
On va parler d'NVIDIA. Non, mais je vous vois venir. Là, c'est un appel du pied. Il est très clair. NVIDIA, on en parlera dans un instant, bien sûr, la publication ce soir d'NVIDIA. Qu'est-ce qu'il faut anticiper? Est-ce qu'un nouvel effet blast, comme le trimestre précédent, est possible pour les marchés mondiaux sur la seule publication d'NVIDIA? Est-ce qu'NVIDIA, à lui seul, donnera là pour les indices mondiaux dans les prochains jours? Bon, on s'interrogera là-dessus dans un instant. Mais d'abord, Thibault, même question. Même les plus pessimistes des grands stratèges américains deviennent optimistes pour le marché, là. Est-ce que ça veut dire qu'il est devenu interdit d'être pessimiste en bourse?
Ouais, je fais une réponse plus courte que celle d'Alexandre, qui a plus d'énergie que moi, mais le point qui est intéressant, en fait, c'est de voir qu'on est en train de vivre un écrasement de la volatilité. C'est-à-dire qu'en début d'année, on a eu des trucs qui sont partis en chapeau de roue, il y avait des séances à plus 2, moins 2, on avait ce risque sur Taïwan que tout le monde a oublié très rapidement, on avait des attentes, et en fait, maintenant, on a un marché qui semble plus balisé dans le parcours sur les taux, qui est plus consensuel, et on se retrouve avec des séances, si vous regardez le Nasdaq ces derniers jours, à coup de plus 0,20, moins 0,10. Oui. Dans le même temps, le CAC fait que des séances sous les 1% d'amplitude. Donc c'est vrai que si ça bouge plus tellement, que vous aviez un scénario très baissier en début d'année, que vous êtes à plus 10 et que ça bouge plus, vous êtes un peu inconfortable, donc vous vous ramenez au prix. Ce que font beaucoup d'analystes sur les valeurs, hein, une fois qu'ils se sont trop éloignés de leur prix objectif, ils se rapprochent. Donc j'ai envie de dire, je suis pas sûr qu'il y ait un optimiste BA. Il y a juste des gens qui disent, bon bah, je suis un peu loin de mes objectifs, je vais ramener ça un peu. Donc honnêtement, on est plus dans le moyen de se dire, bah, si je disais 10 de baisse, je vais dire 0, puis comme ça, si ça rebaisse, je dirais que j'avais raison. Bah, honnêtement, dans le métier du brokerage, on est plus dans cette logique-là, entre guillemets, de mettre des objectifs pas trop éloignés. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un regain d'optimisme massif. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en revanche, effectivement, les gens qui étaient très négatifs trouvent aujourd'hui, avec un marché qui a monté et qui est relativement en stabilisation, un terrain qui est quand même nettement moins confortable pour leurs prévisions. Pour autant, un sentiment de marché assez clair, une recherche des actifs en retard et des cotés, et un sentiment un peu topiche sur les classes d'actifs qui avaient très bien marché, que sont les grandes valeurs US ou le luxe en Europe, vous le disiez vous-même, où on sent qu'on est sur quelque chose d'un petit peu plus lourd, parce qu'on est sur des zones bien valorisées, avec des perspectives qui sont moins explosives.
Aujourd'hui, par exemple,
on trouve un peu d'équilibre.
Les deux plus fortes baisses du CAC aujourd'hui, c'est les valeurs du luxe. Hermès perd 4%, LVMH perd 2,3%. C'est le luxe qui pèse sur le CAC après la publication, surtout les perspectives annoncées par Chanel. Ouais.
Donc, oui, c'est vrai qu'on ne se souvenait même plus que Hermès avait le droit de baisser de 4%.
C'est ça.
Il est vrai que c'est des valeurs qui ont connu des croissances extrêmement fortes, qui rentrent un peu dans le rang, qui sont bien valorisées, surtout dans le cas d'Hermès, moins évidemment de LVMH, et donc c'est vrai que les catalystes pour des fortes hausses ou des fortes baisses sont un peu moins présents, donc on a dans ces flux qui rebougent, tous ces flux qui ont été très amenés par cette valeur, par cette vague d'achat d'ETF qui ont forcément fait acheter beaucoup de luxe, se redispatchent un peu vers autre chose. Je pense qu'il n'y a rien de très inquiétant ou de très problématique.
Et c'est
l'idée qu'il y a plus à faire ailleurs est une idée avec laquelle nous on peut être confortable chez Herbevel sans
considérer
que c'est une cata.
Cette ailleurs, cette autre chose, cinquième élément là, qui est en train de refaire surface. Non, mais voilà, ces valeurs qui étaient oubliées, la majorité silencieuse du marché qui est en train de prendre une petite revanche et peut-être de retrouver de la performance. Vous pensez que c'est un phénomène durable ou que c'est un peu le rebond des valeurs parfois peu qualitatives mais parce que le marché manque d'idées tout simplement. Donc on vient acheter des valeurs de façon moins sélective qu'avant, quoi.
Non, mais c'est aussi assez durable parce que déjà la sélectivité ça veut rien dire, c'est-à-dire que être sélectif, il y a beaucoup de segments de valeur qui ont fait des très beaux résultats, des plus beaux résultats que les large cap, mais les gens ne l'achetaient pas. Donc est-ce qu'être sélectif c'est acheter des titres qui vont monter, auquel cas bon, c'est plutôt être un bon gérant assez difficile, ou est-ce que c'est acheter des titres qui performent en termes de performance opérationnelle? Il y a plein de boîtes qui performent très bien de manière opérationnelle qui sont en désamour et de facto qui ont connu des décotes extrêmement fortes. Si vous vous souvenez, l'année dernière vous achetiez Stellantis à un moment 2,5 fois les résultats, dont on ne peut pas dire que les résultats étaient très critiquables. Donc il est vrai que voilà, le marché a sa dynamique propre. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a plein de segments qui ont bien marché opérationnellement et qui sont décotés. En revanche, C'est aussi des valeurs où quand tu es avec des vendeurs, ça tombait comme des pics. Quand on commence à retrouver des acheteurs sur certains segments, bah, c'est un peu autoréalisateur puisque les gens se repositionnent sur des marchés qui sont moins profonds, donc font monter les marchés. Donc l'idée que c'est un mouvement forcément de très court terme semble un peu faible. Il y a beaucoup d'investisseurs, hein, particulièrement dans le monde institutionnel, les caisses de retraite, les mutuelles, qui nous disaient bah, « moi, il y a certains segments où je vais en bien revenir, mais je ne veux pas être le premier ». Donc quand on sent que ça commence à enclencher, on a plus peut-être de chances parfois d'avoir des courroies d'attraction que d'avoir des mouvements de très court terme.
Celui que je peux répondre là-dessus, c'est un truc intéressant, c'est que le dernier record du CAC, avant qu'il corrige un petit peu, se sont fait sans le luxe. Hein, si on regarde bien, Hermès était déjà un peu sous ses plus hauts, LVMH a nettement dessous, puis Kering, on n'en parle pas. Donc les derniers records, ça s'est fait avec des segments effectivement plutôt value, on a eu de la banque, on a eu de l'industrie aussi, hein, le Stock 600 Europe Industrie, il a battu des records hauts. Donc c'est ce qu'on a vu aussi en Italie, en fait, le MIB italien, qui est vraiment des valeurs très traditionnelles, assez peu de valeurs de croissance, qui a fait des plus hauts depuis, hors dividende, hein, depuis 2008, très régulièrement ces derniers temps. Donc c'est intéressant de voir que le CAC, malgré la grosse pondération du luxe, a pu faire des records historiques sans le concours du luxe. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, une fois que la phase typiquement consolidante qu'on a sur LVMH, des grandes oscillations comme ça depuis maintenant presque deux ans finalement, quand on va commencer à en sortir, le CAC 40 sera un nouveau tremplin pour lui, mais il est déjà très résilient sans l'apport de LVMH par exemple. Ce qui est plutôt un très bon signe, parce qu'il est quand même très bien diversifié. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne suis pas très inquiet pour le CAC 40. Pour moi, le scénario le plus noir pour le CAC, c'est le retour à 7007, c'est-à-dire une zone un peu... On est dans une espèce de grosse zone de consolidation post-Covid, des grosses oscillations en forme de triangle. On est sorti par le haut. Si on devait retracer ça, c'est 7007 à peu près. Donc pour moi, le sein du pire CAC 40, j'ai bien du pire, ce serait 7007. Donc c'est pas très...
Oui, ça va, c'est pas horrible. Hein. Enfin, voilà. Et c'est vrai, on a quand même perdu l'habitude des consolidations, là, quand même. On est en train de la perdre, cette habitude. Alors, on a un VIX qui reste toujours très, très bas, à 12, le VIX. Alors, est-ce que c'est encore un beau thermomètre, d'ailleurs, du risque sur le marché? Est-ce que l'indicateur VIX de volatilité reste un bon thermomètre du risque présent dans le marché ou pas?
Moi, je trouve que oui, rapidement. On est quoi? 11 et quelques, 11, 8, 11, 7, c'est niveau qu'on n'ait pas vu depuis 2019, avant Covid. Il n'y a pas de raison de ne pas être revenu. Donc, je trouve ça assez. Enfin, ça me choque pas à 12. Par contre, si on.
Je sais pas, on achète plein d'actifs refuge parmi lesquels les obligations, l'once d'or, enfin voilà, quand même, les actifs refuges attirent en ce moment. Et pourtant, la volatilité est basse.
C'est plus confortable qu'un VIX qui irait chercher au niveau 2017, où là, on battait de records de faiblesse de volatilité. C'était à l'époque Trump, où il avait annoncé les plans fiscaux et autres. On était vraiment tombé dans des zones, il y avait des short vols très récurrents. Et puis, il y avait le vol Magédon avec le VIX qui était monté en quelques heures à 40-50. Donc, je serais confortable si on passait vers les 10, voilà. Mais à 12, ça reste correct.
Attention quand même dans ce que vous dites, Guillaume, quand vous parlez des obligations, comme d'un achat refuge.
C'est une de leurs dimensions.
Voilà, mais 2022, c'est quand même une crise où les obligations ont baissé autant que les actions. Ce qu'on n'avait plus l'habitude de faire. Et depuis, l'obligataire n'est plus vu comme une refuge, contrairement au cash. Il est vu comme un achat avec un potentiel élevé, un portage intéressant, mais plus du tout comme quelque chose qui n'a pas de risque. Et donc, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, au contraire, c'est dans la poche actif risquée qu'il y a des allocations en obligations qui sont assez agressives désormais. Et donc, c'est vrai qu'il faut revoir parfois nos thermomètres, nos baromètres, qui étaient peut-être parfois sur des règles de 2016-17, qui étaient de dire la poche oblige, en particulier d'emprunt d'État, va compenser éventuellement le mouvement de ma poche action. C'est plus tellement comme ça que le marché a bougé récemment. Donc c'est vrai que les allocations doivent aussi être réévaluées dans leurs composantes de risque. Le marché nous a rappelé en 2022 que le sans risque, c'est le cash et c'est tout.
Oui, et hier, nos intervenants nous disaient l'une des meilleures mesures du risque en ce moment, plus encore que le marché obligataire, c'est vrai, c'est le pétrole par exemple. Et puis il y a l'or aussi, avec des raisons là aussi. Alors, est-ce qu'il y a de la quête de performance à travers l'or? En tout cas, l'or cette semaine, en début de semaine, a touché un nouveau record historique. On vous rappelle la clôture des marchés, pas encore, hein, mais à venir. Dans un quart d'heure, on appellera Aude Kersulec à la Tour Euronext, mais on s'oriente vers une clôture en baisse pour le CAC 40 avec ce secteur du luxe dont vous nous parliez à l'instant, messieurs, plombé par Chanel, les perspectives de Chanel. Résultat, une fois n'est pas coutume, Hermès et Lanterne Rouge du CAC 4%, LVMH de son côté perd 2,1%. Mais vous n'échapperez pas, messieurs, à la question du jour et à Nvidia. Notre question, elle a le défaut de ne pas être très originale aujourd'hui sur les réseaux sociaux, notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn. Elle n'est pas originale, c'est son grand défaut. Mais elle a une grande qualité, cette question. Elle est incontournable parce qu'elle concerne donc Nvidia et la publication de ce soir. Incontournable. On vous demande, vous tous, sur notre fil X et notre fil LinkedIn BFM Bourse, si, à vos yeux, le titre Nvidia va, après la publication de ce soir, à nouveau s'envoler, désormais piétiné, ou pourquoi pas chuter. Telles sont les trois options qu'on vous propose. Vous êtes d'ailleurs déjà nombreux à voter sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner et surtout nous laisser vos arguments en commentaire. On rebondit dessus chaque soir. On vous la soumet aussi, messieurs, cette question. Est-ce qu'Nvidia a encore surtout du potentiel pour s'envoler, plutôt pour piétiner désormais, ou pourquoi pas chuter? Alexandre.
Je me souviens, il y a un an, quasiment jour pour jour, c'était 30% de performance de Nvidia après les résultats, 30%. Hein, et c'était un des premiers énormes trimestres que Nvidia faisait. Il y en a eu trois au total, hein, qui ont précédé la publication d'aujourd'hui. C'est absolument colossal. En étant, par exemple, encore aujourd'hui, 420% de progression, hier tout hier, hein, donc même trimestre par rapport à l'année dernière, 420% de hausse, de rebond, enfin d'extension des bénéfices par action. Moi, je dirais que là, encore une fois, on verra ce soir le verdict du marché, mais on a été précédé, c'est ça qui est bien, par tous les grands groupes, Microsoft, autres, qui ont annoncé leurs dépenses de CAPEX, notamment tout ce qui est intelligence artificielle. Ça se compte en dizaines de milliards, largement. Donc, on a quand même le côté groupe, cette magnifique et d'autres qui continuent d'investir, c'est déjà dans les prix de Nvidia, parce que Nvidia vend à Microsoft, vend à Amazon, vend à Meta, vend à tous les aux géants de la tech US. Donc il y a un effet de non-surprise de ce côté-là, où on connaît les capex et on sait que ça va nourrir la carnet de commandes de Nvidia. On est dans une phase, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais une phase où désormais c'est un peu la course de vitesse entre combien on dépense et à quelle vitesse on arrive à monétiser pour les groupes qui achètent, donc qui passent par Nvidia pour les services et pour les matériaux, oui. Enfin les puces. Donc il me semble que ça c'est un thème qui va être important et que les guidances de Nvidia vont être importantes. Peut-être plus que le résultat, c'est comment Nvidia voit les... Donc moi je verrais bien... Les 1000 dollars, c'est le consensus des analystes. Si on prend le Refinitiv, il y a 57 analystes. Ils ont tous un prix, enfin pas tous, mais le prix moyen, c'est 1050 dollars. 1050 sur du post-market, on peut le faire, et puis peut-être pas forcément les.
Donc Nvidia pourrait, sur la publication, on verra si le titre réagit à la hausse, mais si tel est le cas, pourquoi pas exploser pour la première fois les 1000 dollars par action.
Oui, mais j'ai l'impression que ce sera plus une espèce de. Si on y va, on tape, on monte un peu au-dessus post-market, et puis après on reste dans la zone, voire un peu consolidé. Et je ne m'arrête jamais là-dessus. Par contre, si ça devait décevoir un petit peu, je pense que très rapidement, on peut faire moins 15. C'est-à-dire que tu parlais des options sur ce qui est pricé au niveau des options. Il y a des niveaux aussi techniques qu'on a touché à la dernière correction. La zone des 800 est un peu en dessous. Je pense que si par contre il y a une petite déception sur une guidance ou autre, je pense qu'on l'a vu sur les grands groupes de la tech, on peut faire du moins 15, moins 20 sans aucun problème sur des méta ou autres. Donc pour moi, une déception de résultat, c'est directement on va dans les 800, voire un peu en dessous.
Est-ce qu'Nvidia risque d'avoir un effet blast sur le marché à la hausse ou à la baisse d'ailleurs, mais sur les marchés mondiaux, comme ça avait été le cas le trimestre précédent, oui ou non? Peut-être non, dans la mesure où on parle un peu moins d'IA, ou quand les entreprises parlent d'IA aujourd'hui, c'est pas forcément aussi porteur qu'il y a quelques mois. Donc est-ce que cette fois l'effet blast sera moindre sur les indices mondiaux de sa publication d'Nvidia? Thibault?
Non, c'est un vrai sujet, parce que après il y a un momentum qui faiblit un peu sur Nvidia après un début d'année qui a été stratosphérique, on prend quasiment doublant. Il y a d'autres acteurs qui ont émergé, nous clairement par exemple dans notre fonds Pluvalca Global Trend, c'est un énorme poids de l'indice, on a 80% de la pondération de l'indice dans ce titre, parce qu'on fait le pari qu'il y a d'autres valeurs, des smart micros, d'autres valeurs qui vont profiter de l'IA, ou d'autres valeurs qui n'ont pas beaucoup communiqué dessus, qui pourraient s'y mettre comme Apple, qui ont aussi un avantage. Donc c'est vrai que l'idée que sur le long terme c'est une valeur qui est très intéressante, mais qu'on est dans des zones où c'est très volatile et avoir des très gros poids c'est inconfortable, et quelque chose avec lequel on est confortable, donc à l'aise sur la durée, mais pas vraiment de certitude sur ses résultats. J'en reviens sur ce que disait Alexandre, il a entièrement raison. Les boîtes cette année, particulièrement aux US, réagissent pas tellement aux résultats. Ils réagissent aux perspectives. Des perspectives un peu meilleures, c'est vite des plus 10-15. Des déceptions sur les perspectives, c'est moins 10-15. Et parfois, sans aucun rapport avec le fait que le trimestre ait été meilleur ou pas. Pourquoi ? Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a une professionnalisation de ce métier. Un sérieux qui manque parfois dans des valeurs, en particulier sur certaines petites valeurs. Et donc, en fait, les prévisions données par l'entreprise sont considérées comme très fiables. Et donc, quelqu'un qui vous donne des prévisions, en fait... C'est pas Saint Thomas, c'est pas ça, on verra, c'est les résultats qui comptent. Non, ce qui compte, c'est ses prévisions, parce qu'elles donnent la tendance. C'est-à-dire que les gens ont besoin d'acheter des valeurs qui ont de la croissance, et le fait d'en avoir dans le passé, ça intéresse moins les gens. Donc aujourd'hui, ce qui va intéresser, c'est les prévisions de croissance. Nous, l'idée que c'est une thématique qui reste très forte, mais qu'elle se diffuse un peu dans plus d'acteurs, et qu'il y a beaucoup de dossiers pour jouer, et que donc, oui. Nvidia est toujours un très bon call, mais pas le seul, et quelque chose avec lequel on est confortable. Donc à suivre, mais probablement une certaine volatilité. Il suffit qu'on dise ça pour que ça clôture probablement à plus 0,4. Mais c'est pas grave.
Imaginez, demain ça fait plus 0. Remarque, enfin ce serait bien, non? Nvidia,
c'est ce que ça faisait tout le temps il y a des années. C'est rare, parce qu'il y a beaucoup d'options maintenant sur une journée. Donc on a des swings à 10-15%. Ça n'existait pas trop avant.
Non, c'est vrai. Ouais. Alors, quelle valeur tech en alternative à Nvidia? Cette question que vous posez peut-être, vous tous qui nous suivez, on la posera après la clôture, notamment à Franck Morel. Il sera avec nous depuis les bureaux de Zone Bourse, et Nicolas Lasry pour Mescart Asset Management. Quelles alternatives à Nvidia dans l'IA ou la tech en bourse? Un petit mot quand même de Total Energy, c'est l'autre grand jeu. Faut qu'on le fasse quand même. Allez, 2-3 minutes sur Total Energy. Ce grand jeu, parce qu'Emmanuel Macron dans l'Express met la pression sur Patrick Pouyanné. Il lui dit, oh non, non, pourquoi partir à Wall Street? Enfin, pourquoi choisir Wall Street comme place principale de cotation? Et Emmanuel Macron met en avant des arguments pour dissuader Patrick Pouyanné. Je vais vous demander à chacun de noter ces arguments. Notez les arguments d'Emmanuel Macron. Argument 1, on cite le président de la République. Quiconque a vécu une cotation aux États-Unis sait que cette opération est 10 fois plus compliquée qu'en Europe ou en France. Cet argument, vous lui mettez quelle note sur 10, Alexandre?
6.
6 ? Donc là, c'est crédible. C'est plus compliqué aux États-Unis qu'en Europe, une cotation ?
Alors, compliqué, moi, je mettrais ça plutôt au niveau des coûts, surtout. Compliqué, pas forcément, mais au niveau des coûts. Les coûts d'audit sont, grosso modo, 5 fois plus élevés que pour aller sur Euronext. Les coûts de banque d'investissement aussi. Banque d'affaires, passer par une banque d'affaires pour faire la cotation, c'est, grosso modo, 2 fois plus élevé qu'aux États-Unis. Les frais d'avocat ou autres, c'est aussi. Donc, c'est une question de coût qui est surtout plus élevée.
6 sur 10, Alexandre. Votre note ?
Non, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je vais mettre 1 sur 10 en étant gentil. Je vais mettre 1 sur 10 parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le président évidemment joue son rôle, mais Total est une grande société qui dépasse les 100 milliards d'euros de valorisation, qui est colossale. Elle a des avocats, elle sait ce que ça coûte, elle est déjà au courant. Donc penser qu'Emmanuel Macron va lui ouvrir les yeux sur le fait que ça coûte de l'argent et qu'elle va découvrir ça, c'est à mon avis méprisant. Donc s'il pense les faire changer d'avis comme ça, je dirais bien qu'il se met le doigt dans l'œil, mais c'est peut-être même plutôt le bambou dans l'œil qui se met. À mon avis, très honnêtement, on est sur un argument qui, pour une société qui est très bien conseillé, a déjà travaillé ce projet, l'a déjà analysé, connaît tous les risques. Ça me paraît un peu basique comme analyse.
Enfin, Emmanuel Macron lui dit, quand on observe les marchés sur lesquels opère le groupe Total Energy et qu'on connaît les risques de contentieux lorsqu'on est coté aux États-Unis, ça se regarde à deux fois. Voilà ce que dit Emmanuel Macron.
Ils ont probablement déjà fait.
D'accord. Bon.
Un argument aussi, c'est le coût du lobby. Il faut arriver à influencer les gros institutionnels, arriver à convaincre. Quand on a Total et face à soi, on a des majors pétrolières US, arriver à convaincre qu'on a des atouts par rapport à ces mastodontes.
Bon, sur cet argument, censé dissuader Patrick Pouyanné de faire de Wall Street la place principale de cotation. Donc Thibaut Prébé met 1 sur 10 à l'argument, vous 6 sur 10. Ça nous fait une moyenne donc de 3,5 sur 10. Peut mieux faire. Un deuxième argument d'Emmanuel Macron pour dissuader Patrick Pouyanné. Voilà ce que dit le président de la République. Géopolitiquement, être une entreprise française est un avantage incomparable par rapport à une entreprise américaine qui va être prise, elle, dans la confrontation avec la Chine, en Afrique, au Proche-Orient ou encore au Moyen-Orient. Être français, dit Emmanuel Macron, a beaucoup d'atouts. La France accompagne ceux qui croient en la France, pas les autres. Cet argument, vous lui donnez quelle note, Alexandre ?
5 sur 10, parce qu'on voit, bah, typiquement, on n'en parle pas avec les valeurs du luxe. Regardez ce qui se passe depuis quelques jours. Les États-Unis ont multiplié par 4 les taxes à l'importation sur les véhicules électriques chinois. On voit qu'en Europe, les valeurs type luxe, par exemple, je ne suis pas convaincu que ce soit que les résultats qui font que les valeurs du luxe sont un peu retraçantes. Je pense qu'on a une accélération qui a commencé à arriver. Quand justement ce thème de la guerre commerciale États-Unis-Chine a pris en traction, bah, les valeurs européennes, notamment celles du luxe, ont commencé à être un peu plus défensives par rapport à ça, et pourtant sont des valeurs européennes et françaises.
Votre note, Thibault ?
Et moi, je vais mettre 8 sur 10.
Ah.
Je considère que l'important pour un politique, c'est pas la réalité, c'est l'impact de ce qu'il dit. Quand il dit, de manière à peine voilée, si vous êtes français, on va vous aider, si vous n'êtes pas français, on va vous plomber, oui. Et les Américains qui vous considéreront pas comme vraiment Américains vont pas vous aider, on est dans une menace. C'est probablement ce qu'il peut faire de plus efficace par rapport à un mouvement. On se souvient, vous savez, quand par exemple Bernard Arnault, pour la nationalité belge, il y a des sujets comme ça où la parole politique, un peu menaçante, peut faire bouger des lignes. Là, il choisit une ligne qui est quand même assez claire et pas très voilée dans la manière de menacer. Ce sera suffisant, je le sais pas, mais c'est pas une info qu'il donne. C'est une menace. C'est quelque chose qui a un impact, à voir si elle est prise au sérieux ou pas par Total. Mais c'est impactant en soi. C'est une réalité de leur dire, les gars, si vous êtes plus français.
L'Assemblée Générale Total Energy, ce sera vendredi d'ailleurs. Aude nous appelle, Aude Kersulek, 17h29 à 6 minutes de la clôture. Rebonsoir Aude, comment ça se présente ce soir en Europe ?
Rebonsoir. Ben, ce sera du rouge et notamment du rouge pour un secteur, vous en avez un peu parlé, hein, c'est le luxe qui plonge. Les deux valeurs les plus échangées sur le CAC 40, c'est Hermès et LVMH. Elles sont largement vendues. Hermès qui perd 4,3%. Alors il y a un petit peu de guerre commerciale, il y a un petit peu d'actu sectorielle aussi, puisque Chanel avait publié hier ses résultats annuels, puis la directrice générale avait finalement averti que le luxe n'était peut-être pas aussi porteur en ce moment. Et alors, si Hermès plonge de plus de 4%, c'est que finalement Chanel n'est pas cotée, mais que on peut de plus en plus la rapprocher de la catégorie de l'ultra-luxe dans laquelle fait largement partie Hermès, donc moins 4,3%, tandis que LVMH baisse de 2,2% et Kering, là aussi, un petit peu moins 1,2%.